Francis Atrazik, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'un des pères fondateurs de l'Association française des maîtres restaurateurs et vous présidez l'association depuis sa création en 2010. Que faut-il retenir de ces 5 premières années d'activité? Quels sont les faits majeurs apportés au crédit de l'association au bénéfice de ses adhérents?
Oui, alors au bénéfice de ses adhérents, bien sûr, mais aussi au bénéfice du titre. Parce que ce qu'il y a de marquant en 5 années, ben c'est quand même la progression du titre, puisqu'on est aujourd'hui à 3200, même si effectivement ce n'est pas un pourcentage énorme par rapport au volume de la restauration. Je pense qu'aujourd'hui quand même on a atteint une masse critique qui fait que le titre prend toute sa valeur, avec une implantation qui est tout à fait nationale, hein. On est dans tous les départements, avec des quotas par département qui sont très souvent voisins à 30, 35, 40, donc on représente maintenant dans chaque département français ben une force en matière de label et d'identité. Donc ça, je pense c'est quelque chose qui est marquant. Bien sûr, on peut toujours regretter que ça n'aille pas plus vite, mais c'est un sujet qui est quand même assez délicat, assez vaste, sur lequel beaucoup de professionnels ont leur propre avis. Et donc, il faut essayer d'expliquer les choses pour faire en sorte que ces avis individuels puissent déboucher sur une démarche collective. Et cette démarche collective, c'est le titre. On a la chance d'avoir un titre officiel, c'est le seul titre de la restauration qui est délivré par l'État. Je pense que c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est un titre qui est basé sur le volontariat, c'est pas une démarche de parrainage ou de cooptage ou ce que vous voulez. C'est vraiment le professionnel qui choisit son travail, la qualité de son travail, qui le fait valider, qui le fait contrôler. Et c'est le préfet qui lui donne le titre. Donc c'est une démarche qui est très spécifique et qui change un petit peu de tout ce qu'on avait pu connaître en matière de promotion de la restauration depuis des dizaines d'années. Donc il y a toute une évolution à expliquer. Vous savez, le label en restauration, c'est très nouveau, même si ça a 7 ans. Qu'est-ce que c'est 7 ans? C'est à la fois beaucoup, mais c'est relativement peu. Vous prenez des secteurs comme l'agriculture, où la notion de label, ben ça veut dire quelque chose. On connaît les contraintes, on sait où ça commence, on connaît les passages obligés. Chez nous, c'est relativement nouveau. Et donc, il faut que le professionnel se fasse à l'idée que ça existe et que ça peut être une partie intégrante de sa promotion. Et je crois que de ce point de vue-là, ces 5 années ont parfaitement rempli leur rôle.
Vous l'avez dit vous-même, plus de 3000 titulaires du titre, c'est important, mais si on considère l'ensemble des professionnels susceptibles de répondre aux critères d'obtention de ce titre, c'est encore assez peu. Est-ce que vous avez encore l'ambition, l'objectif de développer numériquement, quantitativement le nombre d'adhérents? Est-ce que c'est possible?
Bien sûr que c'est possible, et bien sûr que c'est un objectif, mais il y a eu une évolution par rapport à la façon d'appréhender le titre. C'est vrai qu'on a connu une période où on parlait d'objectifs. Alors, c'était du scoop, il faut qu'on arrive à 5, 6, 7, 10 000. C'était une époque. Maintenant, l'État s'est rendu compte un petit peu aussi de la complexité de faire partager cette volonté. Et donc, on en est à un dispositif qui se veut beaucoup plus pédagogique et avec une progression qui est beaucoup plus basée sur du moyen terme et du long terme que sur de l'affichage avec tel ou tel objectif. Donc ça, c'est une bonne chose. Si vous me demandez combien je pense qu'il puisse y avoir de maîtres restaurateurs, je suis incapable de vous le dire. Je pense que si on atteignait relativement vite les 5 ou 6 000, on aurait déjà un volume représentatif au niveau national qui serait loin d'être négligeable. Il n'y a aucune association aujourd'hui de cet ordre-là qui puisse se targuer de nombre d'adhérents de cette nature-là, en sachant que chez nous, l'adhésion est quand même très contraignante. D'ailleurs, c'est pas simplement le fait de faire un chèque. Il y a toute la partie audit, il y a toute la partie contrôle, il y a toute la partie engagement sur les produits, sur la qualité. Donc c'est pas simplement une opération comme ça, là, qu'on décrète. Il faut vraiment la mériter et puis aller le chercher, ce titre. Donc dans ces conditions-là, ces 3200 titres sont vraiment pour nous un palier qui est important. Alors après, qu'est-ce que c'est qui peut faire que ce nombre augmente plus ou moins vite? Le seul qui sera capable de faire augmenter ce nombre de professionnels, ben ce sont les clients. Le jour où les consommateurs sauront les garanties qui sont données par rapport au titre, ben ce sont eux qui le demanderont. Et les professionnels qui seront capables de l'avoir, ben feront l'effort nécessaire de l'avoir, tout simplement, parce qu'ils seront tout à fait certains qu'il y a une clientèle derrière. Et je peux vous dire que de ce point de vue-là, aujourd'hui, il n'y a pas un seul maître restaurateur qui ne puisse pas dire que le titre ne lui a rien apporté. Tous les maîtres restaurateurs ont eu des clients liés au fait qu'ils étaient maîtres restaurateurs.
C'est ça qu'il faut retenir de cette courte existence du titre. Il y a une reconnaissance de la part des clients et des clients fidélisés du titre. le titre est un élément d'attractivité commerciale du restaurant. C'est ce que vous prouvez ?
Bien sûr, c'est fondamental. Toute cette promotion vis-à-vis du grand public, ben vous savez parfaitement que ce sont des sommes à investir qui sont assez considérables. Quand on veut développer une marque, il faut vraiment les moyens financiers. Bon, il se trouve que l'État valide le titre, mais n'apporte pas de moyens financiers pour développer le titre.
Il y a quand même un allègement fiscal sur l'investissement.
Oui, sauf que l'allègement fiscal, il profite effectivement aux professionnels, mais ce n'est pas un élément financier de communication vis-à-vis du grand public. Donc les campagnes de promotion, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous, on est obligé de promouvoir le titre avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire une cotisation que veut bien nous verser les adhérents, en sachant qu'elle n'est même pas obligatoire. Donc on fait ce qu'on peut avec nos moyens, et on a la chance quand même d'avoir un projet qui est vraiment un projet qui parle à beaucoup de gens et à beaucoup de journalistes, et qui le relaie de plus en plus facilement d'abord, et qui en parle de mieux en mieux. Alors ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que si on avait la puissance de feu, de professionnels de la communication. Moi je pense que c'est beaucoup plus sécurisant d'avancer à notre rythme, avec toutes les sécurités nécessaires, avec toute la fiabilité nécessaire. Et moi je suis tout à fait confiant, vous savez le titre aujourd'hui il est inscrit dans la loi. Ça sécurise le consommateur, ça sécurise aussi le professionnel. Le titre c'est pas un feu de paille. Donc il continuera à vivre et il se développera. Mais encore une fois, les objectifs chiffrés qui avaient été avancés au début, je pense qu'on ne les atteindra pas. À mon avis, si on arrivait à 5, 6 000, ça serait déjà une très très belle performance. Les objectifs chiffrés, c'était surtout des effets d'annonce. Ça ne correspondait absolument pas à la réalité et les faits le prouvent. Encore une fois, ce titre-là, il y a des contraintes derrière. Alors, il y a les contraintes techniques liées au label, mais il y a aussi tout ce que ça induit en termes de recrutement, de personnel, de formation, d'engagement sur tout un tas de sujets qui sont des contraintes pour le professionnel. C'est un petit peu plus compliqué d'être maître restaurateur que de simplement acheter, réchauffer et revendre.
Certains professionnels ont pu dire que le référentiel était quand même très strict. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique de la sévérité du référentiel ? Référentiel qui a été aménagé quand même depuis 2010.
Oui, mais paradoxalement, on trouve des professionnels qui trouvent que c'est trop et d'autres qui trouvent que c'est pas assez. Allez trouver le juste milieu. Ceci dit, c'est un label et il y a des contraintes, on est bien d'accord. Soit vous pouvez ou vous pouvez pas, soit vous voulez et vous voulez pas. Personne n'est obligé de demander le titre de maître restaurateur. Encore une fois, c'est une démarche volontaire. Pour le cuisinier, le professionnel qui a le titre, ça suppose aussi peut-être une certaine réflexion sur sa carte, sur les produits. Peut-être que les cartes à rallonge, eh ben, c'est terminé, qu'il vaut mieux se concentrer sur un certain nombre d'autres valeurs qui sont plus d'actualité, on va dire. Bien sûr que pour beaucoup de professionnels, avoir le titre, c'est quelque part une remise en question. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Sur ces sujets-là, on n'aura pas 100% d'avis favorable parce qu'il y a tellement de situations différentes que c'est compliqué. D'ailleurs, toutes les discussions qu'il y a eu sur tous ces sujets-là pendant ces 2 ou 3 ans, que ce soit fait maison, que ce soit maître restaurateur, que ce soit maintenant artisan cuisinier, que ce soit des initiatives comme restaurant de qualité ou autre, ce sont des initiatives qui sont rentrées dans le paysage et puis qui ont fait poser beaucoup de questions aux professionnels. Après, le professionnel, il fera son choix selon ce qu'il veut faire, selon ce qu'il sait faire. Et puis, comment il peut le faire? Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de contraintes, mais si vous voulez un label de qualité, il faut qu'il y ait un minimum de contraintes. On préconise des produits frais. Ça me paraît relativement naturel pour un restaurateur de proposer des produits frais.
Vous abordez la question du fait maison et de l'évolution de son référentiel. Label qui a tout juste un an et demi, il est né en 2014, et un an après son entrée en vigueur, son référentiel était déjà réaménagé avec une notion nouvelle, puisque là on a substitué la notion de produit brut par la notion de produit cru. Quelle était la position des maîtres restaurateurs dans cette affaire qui a fait débat ? Enfin, le débat était tranché. Le nouveau référentiel est l'objet non pas d'une unanimité, mais d'un consensus. Dans ce débat délicat quand même, quelle était votre position ?
Déjà, lorsque vous parlez de produits bruts et de produits crus, donnez-moi déjà la différence. C'est pas aussi simple que ça. Pour moi, un produit brut, c'est un produit cru. Parce que dès lors qu'il est cuit, il est plus brut. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la sagesse du gouvernement a été de savoir transformer un décret par une nouvelle formulation tout en gardant les mêmes prérogatives. Alors il y a 2-3 bricoles qui m'étaient supprimées, mais globalement, la philosophie c'est exactement la même. Alors bien sûr, cette notion de fait maison a perturbé relativement le paysage. Mais moi j'en suis très heureux, parce que on était arrivé à un moment où beaucoup de professionnels affichaient fait maison et faisaient n'importe quoi. C'était plus un engagement sur quoi que ce soit, c'était simplement un élément de marketing. Et ça ne peut pas durer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce décret ? Il a tout simplement précisé une définition de ce qu'était le fait maison. Et il l'a précisé avec l'obligation de le signaler plat par plat. On parle très souvent de label fait maison. C'est même pas un label, c'est un petit signe, un petit picto qu'on met devant un plat lorsque le plat est fait dans telles conditions. La définition, elle est simple, hein. Cuisine faite dans l'entreprise à partir de produits bruts, qu'ils soient frais ou qu'ils soient surgelés. Et la deuxième mouture a introduit la notion de cru. Mais encore une fois, entre brut et cru, c'est quand même peanuts en termes de nuance.
Oui, mais pourtant, le législateur et les professionnels ont voulu substituer un terme par un autre en considérant que sous le terme de produit brut pouvaient entrer malgré tout des produits issus de l'industrie.
Non, ils sont plus bruts s'ils sont issus de l'industrie. S'ils sont issus de l'industrie, ils sont fatalement transformés. Et s'ils sont transformés, ils ne sont plus bruts. Ceci dit, je ne dis pas que ça n'a rien changé. Il y a par exemple quelque chose qui était inscrit dans le premier décret qui, moi, me gênait énormément et qui a été supprimé. C'était une phrase qui consistait à dire « Vous pouvez acheter vos lasagnes X, et dans la mesure où vous dites qu'elles sont achetées X, vous pouvez mettre fait maison derrière. » Bon, ça, c'était une aberration qui a été supprimée. Donc là, on est très heureux. Il y a autre chose qui a été supprimée, c'est l'obligation de marquer la définition du fait maison sous tous les plats. En dehors de ces deux éléments, le fond de la qualité du fait maison, il n'a pas bougé. Simplement, il est présenté d'une manière beaucoup plus pédagogique. Plutôt que de mettre, par exemple, en avant une liste de dérogations, on a dit, font partie des dérogations, des produits que le client ne s'attend pas à voir fabriqués par le professionnel. Et là-dedans, on intègre les fromages, le flambon, le saucisson. Mais ce n'est pas formulé de la même façon. Je ne suis pas sûr que, même avec les efforts de pédagogie qui ont rendu ce deuxième décret mieux accepté, je ne suis pas sûr que les résultats dans l'utilisation au niveau des restaurants soient guère plus importantes, pour quelques raisons essentielles. Prenez un professionnel qui fait du fait maison, ben, s'il fait un plat ou deux ou trois, qu'il affiche sur sa carte un plat ou deux ou trois, ça veut dire par déduction que tout le reste n'est pas fait maison. Peut gêner un certain nombre de professionnels. C'est une évolution fondamentale sur l'approche de la valorisation de la restauration.
Le maître restaurateur, c'est l'excellence du fait maison, quelque part, puisque sa cuisine, sa carte, doit être composée essentiellement de plats faits maison.
Le fait maison, on est d'accord, c'est un petit picto qu'on retrouve plat par plat sur une carte de restaurant. Sachant qu'il n'y a pas une obligation, hein. Vous pouvez parfaitement faire du fait maison et ne pas l'afficher. Si vous l'affichez, il faut que ça corresponde à la définition. C'est quand même assez basique. Et si ce n'est pas le cas, c'est de la publicité mensongère qui devient un délit avec 300 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Ça, c'est pour le fait maison. Le titre, c'est quoi? Le titre affiche une cuisine 100% faite maison. Et il rajoute en plus, à partir de produits acquis majoritairement frais. Donc c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus complet et qui reprend des notions qui ne sont pas forcément dans le fait maison, où encore une fois, on ne parle pas de produits frais ou de produits surgelés, il suffit qu'ils soient bruts. Donc pour le titre, il faut qu'effectivement, les produits soient acquis majoritairement frais. Alors c'est quoi majoritairement? Je suis souvent énervé contre un certain nombre d'interprétations. On me dit pourquoi 51%, pourquoi pas 70%, c'est pas ça. La notion de majoritairement frais, elle a été clairement définie. Elle veut dire tout simplement que l'ingrédient principal du plat doit être acquis frais. Et qu'à côté, en garniture, vous pouvez acquérir des produits surgelés, mais à condition qu'ils soient bruts, pour conserver la capacité de dire que l'ensemble de la cuisine est faite dans l'entreprise. La notion de majoritairement, elle est liée à l'ingrédient principal. Vous faites un foie gras chaud, frais. Là, le foie gras, qui dans ce cas-là en particulier est l'ingrédient principal de votre assiette, vous avez l'obligation de l'acquérir frais, parce que c'est la composante principale du plat. Vous faites par exemple un tourne-dos Rossini, dans lequel il y a du foie gras. Dans le cadre du tourne-dos Rossini, la composante principale du plat, c'est le bœuf, c'est le tourne-dos. Donc, il faut que le tourne-dos soit acheté frais, mais à la limite, on pourrait acheter la tranche de foie gras qui éventuellement va avec, en surgelé. Voilà ce que ça veut dire majoritairement. En plus de cette notion de majoritairement frais, il y a une autre notion qui complète le dispositif du maître restaurateur, c'est la notion de circuit court. Il faut qu'il y ait 5 produits à la carte qui soient achetés dans des circuits régionaux, tout simplement pour valoriser les productions locales. Alors ça peut être de la viande, ça peut être des fromages, ça peut être des légumes, des fruits, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y en ait 5 par région. Donc effectivement, on peut considérer que le titre est plus contraignant que la simple notion de fait maison, pour les raisons que je viens de vous dire. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons, nous, réussi, au titre de l'association, à intégrer de manière dérogatoire quelques produits supplémentaires qui n'empêchent pas d'avoir le titre, mais qui par contre sortent du cahier des charges du fait maison. Je pense aux glaces, Le maître restaurateur peut acheter des glaces chez un artisan sans pour autant perdre sa qualité de maître restaurateur. Je pense aux plaques de feuilletage. Le maître restaurateur peut acheter des plaques de feuilletage crues sans pour autant perdre sa qualification de maître restaurateur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué de gérer l'ensemble d'une carte par rapport à ces notions-là que si c'est simplement sur un plat. Ces aménagements, ces exceptions, ces tolérances, elles ont été actées dans un document qui est très précis et qui n'est pas figé. Il n'est pas du tout interdit de penser que d'autres produits peuvent devenir dérogatoires ou au contraire, des produits qui sont dérogatoires aujourd'hui pourront être sortis des listings. Il y a par exemple une dérogation qui est liée à cette notion justement d'ingrédients principaux majoritairement frais. Bien, vous avez des produits que vous ne trouvez pas en frais. Bien, il y a une tolérance pour ces produits en particulier de pouvoir les acheter en surgelé. Donc, bien sûr, il y a des contraintes, mais je crois que le dispositif qui est présenté aujourd'hui aux professionnels est accessible à beaucoup de professionnels dans la mesure où ils acceptent de s'engager tout simplement et de remettre un certain nombre de choses en question. Et ça, je ne pense pas que ce soit suffisamment clairement expliqué. On a toujours tendance à mettre en avant les difficultés. On a beaucoup moins tendance à expliquer comment les contourner.
Donc une proximité naturelle entre le fait maison et le maître restaurateur. Mais le public, lui, est-ce qu'on ne peut pas encore l'aider davantage à faire le rapprochement et à le guider dans ses choix de table, de bonne table ? Que peut faire l'association en la matière ?
Pourquoi il y a eu tant de réactions diverses et variées par rapport au fait maison ? Parce que fait maison, ça parle. Vous dites fait maison à quelqu'un de suite, ça lui dit quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément la même chose pour tous, mais ça dit quelque chose. Maître restaurateur, il faut expliquer. C'est beaucoup plus long. Il faut prendre le temps d'expliquer. Et c'est pour ça que toute cette signalétique de maître restaurateur qu'on a voulu mettre en place avec le R bleu, blanc, rouge, ce sont des images fortes qui suscitent des questions des clients. Ça veut dire quoi ? Et ça oblige le professionnel à expliquer pourquoi lui, il a un R bleu, blanc, rouge. C'est vraiment de la pédagogie. Encore une fois, c'est pas forcément spectaculaire au niveau des résultats, mais il y a un travail de fond qui est fait, qui commence vraiment à porter ses fruits. Puis on voit la fierté des professionnels qui ont ce titre et qui vraiment l'exposent, en particulier les petites entreprises. Parce que pour elles, c'est un outil de reconnaissance qui est assez inespéré. Il n'y a pas besoin de réseau, il n'y a pas besoin de parrainage. C'est vraiment le professionnel qui se prend en main, qui passe par les contraintes normales. Donc ce titre-là, effectivement, encore une fois, on peut considérer que ça ne va pas assez vite, mais ça avance. Et rapidement, je pense qu'on a passé les masses critiques, les étapes critiques, rapidement, le consommateur saura ce que ça veut dire un maître restaurateur. Et là, je veux dire, la garantie, elle couvre vraiment la préoccupation aujourd'hui des clients. Parce que c'est quoi la garantie ? Premièrement, c'est un professionnel qui est dans l'entreprise, par opposition à tout un tas de gens qui ouvrent des restaurants et qui n'y connaissent strictement rien. Donc c'est un professionnel confirmé, c'est pas neutre. Et deuxièmement, c'est un engagement sur le travail dans l'entreprise avec des produits majoritairement frais. Déjà, ces éléments-là, pour le consommateur, c'est excessivement lisible. Et c'est une sacrée garantie. Et c'est une garantie en plus officielle.
Dans les prochains mois, est-ce que vous avez des initiatives à faire connaître, à proposer pour faire évoluer la reconnaissance, la popularité, l'intérêt pour le titre en France et peut-être au-delà d'ailleurs ?
Vis-à-vis du consommateur, les choses sont enclenchées. On a déjà un annuaire spécifique grand public, on tire à 250 000 exemplaires, donc c'est quand même énorme. On a après tous les supports digitaux traditionnels, un site, des applications, ce sont des outils qu'on a déjà et qu'on va continuer à développer. Quand même, quelque chose vis-à-vis du grand public qui est de plus en plus intéressant, c'est la communication qu'en font les journalistes ou les pouvoirs publics, avec de plus en plus fréquemment des remises de plaques officielles, de plus en plus fréquemment des articles, une intervention très fréquente maintenant des blogueurs, qui parlent de cuisine. Tout ça, ce sont de petites touches qui fait qu'à la sortie, la reconnaissance du titre vis-à-vis du consommateur, alors on peut toujours l'accélérer, hein, en fonction de nos moyens, si on a des sommes à investir sur tel ou tel aspect, on le fera. Mais vis-à-vis du consommateur, c'est en train de prendre vraiment corps. Et je me permets de dire qu'on est une des rares associations de professionnels résolument tournées vers le consommateur. C'est vraiment la visibilité vers le consommateur qui est l'objectif clairement affiché. Après, il y a une deuxième prérogative pour promouvoir le titre, c'est tout ce qu'on peut faire pour les professionnels qui veulent l'avoir. Et l'idée, c'est de dire, le professionnel, il fait les efforts nécessaires pour avoir le titre. Mais il faut faire en sorte que le fait d'avoir le titre soit pour lui aussi une carte spécifique qui lui permette d'ouvrir un certain nombre de portes qu'il ne pourrait pas ouvrir s'il n'était pas maître restaurateur. Donc, première porte, on l'a vu, c'est vis-à-vis du client. Et puis on est en train de travailler sur d'autres sujets qui vont se transformer en avantages pour le professionnel qui a le titre. On est en train de négocier un partenariat avec la BPCE pour faire en sorte que, vis-à-vis des intervenants bancaires, le titre soit une caution validée, qui soit sécurisante en cas d'investissement, de manière générale. Vous savez qu'on a des métiers qui sont marqués au rouge, hein. Les banquiers sont très très frileux pour la restauration. Je pense qu'on est sur le point de négocier un programme, pas pour les taux bancaires ou par les taux de carte bleue, c'est pas ça le sujet, mais sur des investissements lourds, des investissements de structure, des achats, des transmissions, des opérations, des rénovations, qui sont relativement onéreuses, on va pouvoir avoir un certain nombre de garanties bancaires qui vont faciliter l'intervention des banques pour les maîtres restaurateurs. On est également en train de travailler en matière de formation sur la façon de voir comment le maître restaurateur pourrait disposer d'un catalogue, entre guillemets, de formation un peu spécifique par rapport à ses problèmes spécifiques à lui. Donc là aussi, il y a toute une réflexion qui est en train de s'engager pour que, en matière de formation, on ait vraiment un outil qui soit adapté à nos besoins, sur l'apprentissage aussi. Qu'on a des métiers dans lesquels l'apprentissage, très souvent on l'a qualifié de voie royale. Tous ces sujets-là, ils sont vraiment à l'ordre du jour et j'espère que rapidement, on va pouvoir proposer aux maîtres restaurateurs des dispositifs qui sont vraiment spécifiques à leur qualité de maître restaurateur. L'autre sujet, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment la forte volonté de transposer ce titre à l'étranger. Pourquoi ? La cuisine française à l'étranger, aujourd'hui, elle est très souvent portée par des chefs prestigieux. C'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a, au niveau mondial, dans beaucoup de pays, des quantités de professionnels qui sont de très très bons professionnels français et qui ont eux aussi besoin d'une reconnaissance nationale. Et là, je pense que pour le titre de professionnel français à l'étranger, il y a une mine considérable qu'il faut organiser et je peux vous assurer qu'on a des demandes très très précises de beaucoup de pays qui sont très preneurs de ce genre d'initiative parce que ça leur donnerait une visibilité qu'aujourd'hui ils ont du mal à avoir. Ça, c'est vraiment un beau challenge et j'espère que sur ce sujet-là, on sera suivi par les pouvoirs publics pour faire en sorte que la qualité officielle de ce label à l'étranger soit aussi crédible que ce qu'elle est en France.
Vous n'avez pas un projet de prix ?
On a effectivement lancé cette année deux types de concours. Le concours traditionnel de cuisine. Nous, on va reprendre au niveau national un concours de cuisine fait tout simplement pour valoriser nos valeurs. Sur l'approche 100% frais, 100% frais maison, c'est une première série de concours avec 10 présélections régionales et une finale nationale. Une autre catégorie de concours qui, là, n'est pas liée au maître restaurateur en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas le chef qui fait le concours, c'est son apprenti. Et donc, ce sont des concours qui existent, puisque là, on va reprendre le concours Jeunes Talents qui était fait par les restaurateurs de France, vous savez, qui était un petit peu l'ancêtre de maître restaurateur. Et donc, on va lancer les deux catégories de concours, un pour les professionnels et un pour les apprentis. Pour les apprentis, bien de prévu, 4 présélections et là aussi une finale nationale à Ferrandi, à Paris. Ça permet de faire parler du titre, de faire de l'événementiel, de valoriser, parce que ce sont des concours qui sont très bien dotés. J'ai en projet aussi de reprendre, alors c'est pas un concours au sens concours du terme, mais c'est quand même quelque part une compétition, c'est le trophée René Lasserre qui valorise l'art de la découpe et du travail en salle. Alors c'est très élitiste entre guillemets, mais ça peut être un très bon support pour remettre dans le panorama les métiers de la salle, au sens large du terme, parce que très souvent on parle de la cuisine, mais c'est vrai qu'on a de graves lacunes en termes de recrutement et de formation au niveau du service. Je pense que ce concours-là sera un excellent support pour reparler de tout un travail de salle. Bien sûr, on ne va pas imposer au maître restaurateur de tailler le gigot à la volée, le problème n'est pas là, mais de redonner un petit peu le sens d'une certaine mise en scène au niveau du service, tout simplement. Vous savez, le client, il est attentif à peu de choses, ne serait-ce que servir un vin. Mais il y a tout un tas de gestes en salle qui valorisent déjà celui qui est capable de le faire, et puis aussi qui valorisent le client parce qu'il se dit, il prend soin de moi quand même.
Francis Atrastique, je vous remercie.
Ben, je vous en prie, merci à vous.